Bon. Ah, je vois des sourires, super. Vous êtes, on est heureux, hein. On est heureux d'être ensemble dans la, entre frères, entre sœurs. Je vais essayer de pas tomber avec ça. On est vraiment heureux d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la louange, dans l'adoration, dans la présence du Père et surtout que le Saint-Esprit nous remplisse, nous fasse du bien. Le thème de mon message ce matin, mes objectifs sont-ils des contraintes ? Mes objectifs sont-ils des contraintes ? Nous avons chanté tout à l'heure, je passerai ma vie à chanter et je chanterai ton amour à jamais. Waouh ! Il y a une différence entre mes paroles et mes actes. Allons-nous chanter demain, allons-nous chanter tout à l'heure en sortant l'amour de notre Seigneur Jésus ? Quels sont nos objectifs aujourd'hui ? Nous devons racheter le temps. Nous devons tous, sans exception, nous mettre à l'action. Rien ne se fait sans vision. Rien ne se fait sans objectif précis. Nous devons tous être les acteurs de notre propre vie. Je vous ai partagé lors d'un autre message ma rencontre avec Louis, certainement vous vous en souvenez. Louis, c'est un jeune qui vient dans mon salon de coiffure. Je ne voulais pas le dire, mais je ne voulais pas me faire de pub. Il a toujours été très motivé par son projet professionnel. Il a passé toutes ses vacances en Angleterre, ça a bien fait rire Robert la dernière fois, parce que comment peut-on trouver une motivation d'aller en Angleterre toutes ses vacances ? Mais lui, il l'a trouvé. Et les Anglais sont des gens très sympathiques. J'y suis allé 5 ans d'affilée, c'est vraiment super. Il s'est focalisé avec constance dans ses méthodes de travail. Il a fait une préparation militaire de 2 ans dans la marine. Il a passé son bac en juin, il a passé les concours. En septembre, il est rentré dans la marine et il a fait ce concours pour réaliser son rêve, devenir timonier. Vous savez ce que c'est que d'être timonier ? C'est quelqu'un qui pilote un bateau. C'est une très, très grande responsabilité. Bien sûr, on n'est pas seul au début, on est toujours accompagné. Et il fait aujourd'hui partie d'une équipe et il pilote un bateau de plusieurs centaines de personnes. Et quand il monte dans le nord, il vient me voir dans mon salon et nous partageons sur sa carrière, nous partageons sur son évolution. Et vraiment, on partage la joie, lui et moi, de son évolution. Et je, même ne faisant pas partie de sa famille, il y a un lien qui s'est fait entre lui et moi. Et vraiment, je suis fier de ce garçon et je suis vraiment heureux de le voir heureux. Louis fait valeur d'exemple, oui, pour cette jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse représente 24% de chômeurs. 24% de chômeurs. Et je ne vous parle pas des personnes de plus de 50 ans. Sur un potentiel de 10% de chômeurs. Oui. Mais comme quoi on peut réussir. On peut toujours réussir dans la vie. Et Louis s'est donné les moyens de ses ambitions. Alors, ma grand-mère me disait, Pascal, quand on veut, on peut. Mais malheureusement, beaucoup peuvent peu. J'ai coiffé un client la semaine dernière, Roland. On va l'appeler Roland. Il s'assoit sur mon fauteuil, on partage. Je partage beaucoup avec les clients. Puis on parle de choses et d'autres et de sa vie professionnelle. Roland a 38 ans. Et Roland me dit, je suis au chômage depuis 5 ans. Bon. Je ne peux plus rien faire, j'ai fait différentes choses et il me dit aujourd'hui, je ne peux plus travailler parce que je ne m'en sens plus capable. À 38 ans, ce garçon n'a plus d'espoir, ce garçon n'a plus d'objectif dans la vie, il n'a plus rien devant lui. Mais quelle tristesse de ne plus avoir d'objectif. Voyez, un homme sans objectif est un navire sans gouvernail et peut-être sans voile même. Louis, lui, tient le gouvernail, celui de sa vie et celui du bateau. Mais Roland, et sur un rare fio à la dérive. Nous qui croyons en Jésus, nous savons très bien que Jésus restaure les vies brisées. Dans la vie, tout le monde est conduit par quelque chose. Tout le monde. Tout le monde. Mais notre vie, à nous, qui la conduit? Qui la contrôle? Qui la dirige? Avons-nous toujours des projets? Avons-nous toujours des ambitions? Quels sont les défis que l'on aimerait bien relever aujourd'hui? Nous en avons tous. Alléluia. Quelle est la force motrice qui est en nous? Quelle est la source de motivation? Où vais-je trouver aujourd'hui la source de motivation pour aller vers l'avant? Où pourrais-je trouver cette source de motivation? Vous allez me dire, l'amour. Mais oui, l'amour, être aimé, aimé. Mais oui, c'est un idéal extraordinaire. Mais mes frères et sœurs, si les hommes parlaient d'amour, si les hommes vivaient d'amour, mais il n'y aurait plus de misère. Comme quoi les hommes ont tous des objectifs différents. Pouvons-nous avoir des objectifs? Pourquoi devons-nous avoir des objectifs? Parce qu'il est bon, frères et sœurs, d'avoir une raison de vivre. Avoir des objectifs, faire des projets donne un sens à notre existence. C'est un moteur puissant qui crée la motivation et nous ouvre une perspective sur l'avenir. Vous voyez, notre sœur n'est pas là aujourd'hui, mais on a vraiment été ravis, Sabine, qu'elle puisse monter un projet pour créer une MAM, maison d'assistance maternelle. C'est formidable. Regardez, aujourd'hui, le conseil d'église a une idée extraordinaire, c'est de repeindre les murs de notre église pour qu'on puisse passer des fêtes de Noël d'une façon agréable. On a des projets. Quand notre vie a un sens, nous pouvons l'endurer. Sinon, quand l'épreuve arrive, notre vie devient insupportable si on n'a pas de sens. Qu'est-ce que je fais sur Terre? La plus grande tragédie, vous voyez, c'est n'est pas de mourir en bonne santé, mais de survivre désœuvré et sans but, comme Roland. Nous devons avoir des petits projets que l'on peut satisfaire et un grand projet qui nous fait rêver. Amen. Un objectif précis produit en nous la passion. Il met en ébullition nos sens pour nous conduire vers l'excellence. Et quand nos objectifs sont dans le cadre de la volonté spirituelle, la volonté de Dieu, notre horizon s'ouvre sur une dimension de joie, d'amour, d'éternité. Oui, notre vie prend une valeur éternelle et nous sortons du trou. Oui, parce que Jésus restaure les vies. La vision que le Seigneur donne à chaque église est comme une carte de navigation vers une destination précise. C'est un travail personnel que le Seigneur met dans le cœur de chacun, mais c'est aussi un travail d'équipe. Nous formons ici une équipe. Et vous voyez, nous avons prié pour la dîme. Chaque fois que vous mettez une pièce, chaque fois que vous mettez votre chèque, chaque fois que vous payez la dîme, c'est dans la perspective de la vision de l'église, frères et sœurs. Toujours dans la perspective de la vision, c'est jamais à côté. Un manque de vision démotive, épuise. C'est le train-train. On a envie de rien. On a envie de tout. Mais on ne fait jamais rien. On ne fait jamais rien. Mais alors pourquoi travailler? Pourquoi chercher du travail? Mais pourquoi venir au culte ce matin? Pourquoi m'engager dans la vie chrétienne? Pourquoi m'engager aujourd'hui dans mon église avec mes frères et sœurs? Et pourquoi ceci et pourquoi cela? Un objectif nous conduit toujours vers le comment. Nous quittons le pourquoi pour entrer dans le comment avec Jésus. La banalité nous épuise. Certains livrent des combats journaliers avec leur lit. Et souvent, frères et sœurs, c'est le lit qui gagne. Nous avons tous la faculté, le libre choix de définir ce que nous ferons et ce que nous ne ferons pas. Ça, ça nous appartient. Alors comment faire les bons choix? Vais-je remettre tous les matins ma journée au Seigneur afin qu'il la bénisse et qu'il guide mes pas? C'est une première chose qui est très bonne et que nous pourrions faire tous. Mais alors qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de nouveaux projets aujourd'hui? Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de réussite dans ce que j'entreprends? Mais alors, quelle est ma nature? Est-ce que nous sommes de Louis? Ou est-ce que nous sommes des Roland? Est-ce que nous sommes des Louis? Est-ce que nous sommes des Roland? Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Est-ce que nous faisons la nuance, chacun, entre « je vais y arriver » et je vais peut-être y arriver. Ah, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Mais mes amis, ça dépend de nous. Une personne positive convertit toujours ses problèmes en défis, jamais en obstacles. Quels sont nos murs infranchissables? Qu'est-ce qui nous retient en arrière? Qu'est-ce qui nous obsède aujourd'hui? Qu'avons-nous entrepris avec succès et sans succès? Pourquoi certaines choses réussissent à certains et pourquoi certaines choses ne réussissent pas à d'autres? Pourquoi ces échecs? Sommes-nous centrés sur la volonté de Dieu? Sommes-nous centrés, comme dit Colossiens 3 au verset 1, sur les vérités spirituelles, sur les choses d'en haut? Avons-nous été fidèles? Dieu nous a peut-être confié déjà des petites choses. Avons-nous été fidèles dans les petites choses? Alléluia, oui, alléluia. Mais attendez-vous à ce qu'il vous en confie de plus grandes. Alléluia aussi. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est Éphésiens 5 au verset 17. On peut se rendre compte en regardant vers l'arrière qu'on s'est souvent mis des choses sur les épaules, des sacs à dos. On s'est peut-être mis des choses relativement sages et des projets peut-être de plus en plus fous. Mais Dieu donne toujours un but qui nous mène à un style de vie simple et équilibré. Le joug est toujours léger. Dans Luc 14 au verset 28, la parole nous dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Il y a une expression qui est dite souvent « Je suis au pied du mur. Je suis au pied du mur. » On dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Voilà, on est au pied du mur. Quel est notre arrière-plan douloureux? On est peut-être dans la douleur de la religiosité. On est peut-être dans la douleur de la malchance, de l'injustice, de l'échec. Mes frères et sœurs, regardons tout ça comme des avantages, comme des invitations à la progression. Car souvent, ce sont des sources d'enseignement, et ce sont des sources d'enseignement qui nous poussent dans la présence de Dieu. Je le répète, Jésus restaure les vies. Et c'est dans la faiblesse où nous sommes forts, et c'est dans cette faiblesse où nous pouvons crier « Help, 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 Seigneur, au secours, au secours !» Amen. Amen. Sommes-nous au pied du mur de notre culpabilité? Tu t'es peut-être trompé. Oui. Mais tu as le droit de te tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. Personne ne peut te condamner. Et alors, tomber n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas pouvoir se relever. Jésus te permet de te relever. Tu es peut-être au pied de ton passé, au pied du mur de ton passé, mais ton passé ne peut jamais déterminer ton présent. Parce que c'est dans le présent qu'on regarde son futur, mais jamais dans le rétroviseur de sa vie. Le passé est juste une leçon. Le passé est un enseignement et non une punition. Ne brisons pas le potentiel de notre avenir. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ceci. Ah, si j'avais su, j'aurais fait cela. La déception ouvre les yeux, mais la déception ferme les cœurs, frères et sœurs. Dans Luc 9, verset 57, la parole nous dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous sommes peut-être au pied du mur de notre colère. Elle est peut-être justifiée, oui, mais vous savez, mes frères et sœurs, quand on ne décolère pas, nous sommes prisonniers de notre colère et ça nous empêche d'avancer. Et pardonner nous libère de notre colère, de nos blessures passées. Et ces blessures ne peuvent plus nous faire souffrir parce que nous avons coupé le joug de la colère. Nous pouvons enfin avancer, libres de nos chaînes. Et cette colère nous donne l'appréhension de la difficulté pour relever des nouveaux défis. Et nous sommes bloqués, nous sommes dans le statu quo. Certains disent, bah oui, on appelle ça la procrastination. On verra bien demain. Ben oui, un jour à la fois. À mon âge, mais on prend plus de risques, on est trop vieux. Allons. Et à la fois, une trop grande prudence peut semer le trouble et freiner toute évolution, même dans une église. Ce qui fait le jeu du malin. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la parole nous dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Es-tu aujourd'hui devant le mur de l'argent? Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans les banques. Il n'y a plus de guichiers, il n'y a plus de guichières. Ce sont des murs d'argent. La parole nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » C'est dans 1 Timothée 6, verset 10. Bien sûr que nous devons avoir les moyens de notre ambition, de nos ambitions. Nous l'avons vu au verset Luc 14, verset 28. Ma grand-mère me disait « Mais Pascal, si tu veux revendre Lille pour acheter Paris, mais tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas revendre Lille pour acheter Paris. Nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. » Mais quand nos projets sont dans les plans de Dieu, et quand Dieu nous donne la mission, mais Dieu nous donne la provision, frères et sœurs, Dieu est toujours cohérent. Il pourvoit toujours car il donne ce qu'il ordonne. Alors avons-nous besoin aussi? Sommes-nous devant le mur de l'approbation? J'avais un collègue de travail, à chaque fois qu'il veut prendre une décision, il téléphonait à son père et à sa mère. Sommes-nous toujours dans l'obligation de demander la décision d'un autre pour pouvoir prendre la nôtre? Il y a des gens qui sont bloqués comme ça, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Prendre conseil d'une tierce personne, c'est la sagesse, oui. Ça relève de la sagesse. Mais la décision finale, elle doit nous appartenir. Sommes-nous au pied du mur de nos pensées? On est peut-être devant un mur et puis nos pensées, notre raisonnement nous bloque. On peut plus avancer, on peut plus avoir d'objectif. Non, on est coincé. L'âgerie de la peau, oui, et le manque d'enthousiasme. L'âme. Sommes-nous prisonniers de nos schémas de pensée? Notre objectif est-il flouté? Ésaïe 25, verset 12, la parole nous dit « Il renverse, il précipite les fortifications. Élève de tes murs, élevé de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. » Et quand je me suis installé il y a 20 ans, c'était dans une conjoncture qui n'était pas facile, oui, mais qu'est-ce qu'il y avait comme gens autour de moi qui m'ont intoxiqué, qui m'ont dit « Pascal, c'est pas le moment, C'est pas la conjoncture, le commerce il est pas terrible, attends, tu ne devrais pas, reste là où tu es. Mais si j'avais écouté toutes ces personnes négatives, et il y en a plus que des personnes positives, mais je serais où aujourd'hui? Ça fait 20 ans que je suis installé. Ça fait 20 ans que j'ai créé mon entreprise. Devenons victorieux de nos pensées. Nous sommes capables de les transformer en perspectives positives. Et reprenons confiance en nous pour avoir confiance aux autres. Mais surtout, basons notre valeur sur Christ. Lui seul sauve. Ce n'est pas l'Église qui sauve, frères et sœurs. C'est Jésus. Et quand nous nous obstinons dans les objectifs à atteindre du monde, vous vous rendez compte que plus ou moins vite, c'est là où ça dégringole et c'est là où ça ne va pas. Et c'est là où le malin nous tient. C'est là où le malin arrose. Et c'est là où il veut nous faire tomber. Avons-nous fait fausse route? Sommes-nous sortis de cette couverture de Dieu? Nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous avons un Père bienveillant et miséricordieux, qui plus est aimant. Et si tu te repens, si tu te repens de tes erreurs, le Seigneur va t'aider. Même si tu t'es trompé, parce qu'il t'aime tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Jésus nous aime même dans notre imperfection. Proverbe 16, verset 3, la parole nous dit: recommande à Dieu tes œuvres et tes projets réussiront, se réaliseront. Prenons, frères et sœurs, notre envol. Nous franchirons tous ces murs. Jésus nous élèvera au-dessus de tous ces obstacles, parce qu'il désire que nous ayons la vie en abondance, pas une vie où nous roulons avec notre frein à main. Non, il veut que nous ayons une vie en abondance. Alors, suite à tous ces échecs, plus ou moins, tu as peut-être eu des échecs dans ta vie. Tu as peut-être aussi eu des joies magnifiques. Tu as peut-être aussi vécu des échecs. Mais aujourd'hui, tu es peut-être découragé, tu es peut-être démoralisé après toutes ces années. Mais aujourd'hui, qui t'encourage? Qui te remonte le moral? Qui aujourd'hui te redonne confiance en toi? Qui? Qui t'entoure? Qui pose des paroles positives et te tire vers le haut? Qui, frères et sœurs? Qui? Qui va te permettre de surmonter tes épreuves? Qui va te permettre de ne pas rentrer dans cette dépression qui te guide, qui est là devant toi, qui te guette? Qui va te motiver afin que tu choisisses la vie, cette vie en abondance? Ton meilleur coach aujourd'hui, c'est Jésus. Ton meilleur coach aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui qui va te donner cette vie en abondance. Dans le psaume 92, verset 11, la parole nous dit: tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je suis arrosé d'une belle huile fraîche, une huile fraîche, frères et sœurs. Celui qui est enraciné en Dieu renouvelle sa vigueur, il court et ne trébuche pas. Amen. Alors, entourons-nous de personnes avec lesquelles nous partageons l'amour de Jésus. Notamment dans des grands frères et sœurs dans la foi. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un grand frère et une grande sœur dans la foi? Moi, j'en ai rencontré plusieurs et le Seigneur a mis sur mon chemin beaucoup de frères et sœurs dans la foi. Une sœur et un frère dans la foi, c'est quelqu'un qui va te permettre de ne pas aller cacher les talents que le Seigneur t'a donnés. C'est ça, un grand frère et une grande sœur dans la foi. Il ne va pas te permettre d'aller cacher le talent, non. Il va te permettre que ton talent puisse progresser. Amen. Amen. Alors nous avons dans la Bible, j'espère que vous avez cette soif de la parole de Dieu, et nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, que le Seigneur a confié des objectifs à pas mal d'hommes et de femmes. Et il a toujours donné des objectifs, comme il va vous en donner selon les capacités de chacun. Le joug, je le répète, est toujours léger. Mais le Seigneur prépare toujours les cœurs. Et l'objectif le plus difficile que Dieu a confié, c'est à son Fils Jésus-Christ. Et le Père avait un projet pour son Fils. Et le Fils l'a accepté. Réconcilier l'homme avec Dieu. Il a fallu que Jésus aille au bout de sa mission, au bout de sa vision donnée par le Père, la croix, afin qu'il puisse proclamer. Qu'est-ce qu'il a proclamé Jésus sur la croix ? Tout est accompli. Tout est accompli. Objectif atteint, il aurait pu dire. Mission accomplie. Un jour, nous nous retrouverons tous face à face avec Dieu. Tous. Et Jésus te demandera, il te demandera pas si tu es catholique, si tu es protestant, si tu es orthodoxe. Non. Il te ne posera pas ces questions-là. Il te dira, Jean-Claude, il te dira Michel, il te dira Christine, il te dira Pascal, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? M'as-tu permis de t'aimer? M'as-tu permis de t'aimer? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à ma parole? Quels ont été tes objectifs? M'aimes-tu de tout ton cœur? De toute ton âme? De toute ta pensée? M'aimes-tu de toute ta force? Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Mon fils Jésus est-il ton Seigneur? Est-il ton Sauveur? Lui as-tu donné ton cœur? Conduit-il ta vie aujourd'hui? Sais-tu que le cœur, c'est la vie? Si tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné ta vie. As-tu travaillé à l'avènement de mon royaume? As-tu amené la bonne nouvelle? As-tu annoncé la bonne nouvelle de mon évangile? M'as-tu confessé devant les hommes? As-tu fait des disciples? Les as-tu baptisés en mon nom, au nom de mon Fils, au nom du Saint-Esprit? As-tu pris ta place dans l'assemblée? T'es-tu engagé dans ton église pour édifier ton frère, pour édifier ta sœur? T'es-tu engagé dans l'église? Ah! Où sont les talents? Où sont les dons? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as édifié ton frère, ta sœur? Quel est le fruit que tu portes aujourd'hui? Quels ont été tes objectifs? Quels ont été tes objectifs? Que pensons-nous répondre ce jour-là? Que pensons-nous répondre ce jour-là? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps passe, il faut racheter le temps. Nous pourrons dire, j'espère que nous pourrons dire, j'ai fait pour un bien, Seigneur, et j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour te servir avec mon cœur, avec obéissance et fidélité, malgré mon imperfection. Et j'ai tout accompli avec humilité pour ta seule gloire, Seigneur. Et que vous dira Jésus? C'est dans la parole. C'est dans Matthieu 25 au verset 34. Jésus te dira à chacun d'entre nous, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. Waouh ! Qui est-ce qui a envie de vivre ça, frères et sœurs? Qui est-ce qui a envie de vivre ça? Arrêtons de questionner nos vies. Vivons notre vie en abondance. Vous savez, le changement n'est jamais douloureux. C'est la résistance au changement qui est douloureuse. Sommes-nous prêts à changer? Sommes-nous prêts à changer nos propres objectifs afin de suivre la vision que Christ nous donne pour nous et pour notre assemblée? Sommes-nous prêts à nous lever et à changer notre état d'esprit? Sommes-nous prêts à changer? Nous avons tous besoin de grandir en Jésus, moi le premier. Et Jésus ne fera rien sans nous, rien. Parce que je vais vous dire, il veut faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire. Il veut faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Il a besoin de chacun de nous dans notre engagement pour le monde. Allez dans le monde, faites des disciples. C'est le dernier verset de Matthieu 28. Tu es capable de réussir. Le Saint-Esprit va te donner cette capacité. Il va te qualifier. Et tu trouveras le plaisir de servir le Seigneur. Le plaisir, comme tant de missionnaires ont le plaisir d'aller dans le monde. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent la parole de Dieu, nous dit Ésaïe. Garde les bonnes pensées. Garde tes bonnes pensées. Parce que ces pensées sont constructives. Et ces pensées-là, elles nous font du bien. Philippiens 4, verset 13, la parole nous dit « Je puis tout, tout, tout. » Enfin, tout, c'est moi qui le rajoute. Hein. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Est-ce qu'on le croit, ça? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on puis tout par le Christ, par Christ qui nous fortifie? J'aimerais entendre des « Amen ». Oui, « Amen, Seigneur !» Amen. Amen. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Non. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Et ce n'est pas une coïncidence si tu es venu ce matin. Non, ma sœur, non. Tu es venu avec ta maman aujourd'hui, mais ce n'est pas une coïncidence que tu sois venu ce matin. Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes tous concernés. Tous. Dans Hébreux 12, au verset 15, la parole nous dit « Veillons à ce que nul ne se prive de la grâce. » De la grâce. De la grâce. C'est un mot fort, la grâce. Nous sommes tous appelés à vivre pleinement la vision personnelle et nous sommes tous appelés à vivre la vision de notre Église. La parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors, Christ va te parler, Christ va t'éclairer, Christ va nous éclairer. Dans notre vie et dans la vie de notre Église, Christ va nous éclairer. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à être éclairés? À recevoir cette lumière. Sommes-nous prêts? Réveille-toi, toi qui dors. Laisse Christ t'éclairer. Amen. Parce que nous avons tous des talents. Nous avons tous des talents pour pouvoir aimer. Nous avons tous des talents pour pouvoir libérer. Nous avons tous des talents pour pouvoir guider et envoyer. C'est en nous. Et si nous voulons vivre le réveil est dans chacun de nous aujourd'hui. Il est dans chacun de nous aujourd'hui, le réveil. Alors prions le Saint-Esprit afin qu'il nous connecte à la volonté divine, afin de vivre le comment avec Dieu. Mettons notre foi en action. Dans plusieurs prédications, on a parlé de foi. Il faut la mettre en action maintenant, notre foi. Il faut racheter le temps. Dans 1 Jean 5, verset 4, la parole nous dit « La victoire triomphe du monde. » Et cette victoire, c'est notre foi. Engageons-nous pour l'avènement de son royaume. Christ revient bientôt. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Christ revient bientôt. Nul ne sait le moment ni l'heure, mais Christ revient bientôt. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est une œuvre morte. C'est dans Jacques 2, au verset 17. Alors, frères et sœurs, je vous ai posé beaucoup de questions dans ce message. Mais je vais vous en poser une qui est essentielle. Avons-nous ce matin dans notre cœur, après ce message, avons-nous dans notre cœur le « oui, j'ai tout accompli » ? Le « oui, j'ai tout accompli » est-il dans notre cœur ce matin ? Parce que si le « oui » est tout accompli dans ton cœur ce matin, le Seigneur ne va pas te laisser oisif. Il ne va pas te laisser oisif. Alors prends ton grabat, lève-toi et marche. Avec Jésus, tu n'as plus de raison d'échouer. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. Tu n'as plus de rendez-vous avec l'échec, car tes objectifs sont écrits au regard de Dieu. Ce matin, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Luc 18, verset 27 nous dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Jésus va créer en toi le vouloir et le faire. Si le oui est dans ton cœur ce matin, la parole nous dit « Va avec la foi, va avec la force que tu as. » Et il nous dit aussi qu'il te soit fait selon ta foi. Alors le Seigneur te demande ce matin, mais qui enverrai-je ? Mais qui enverrai-je ? Si le oui est dans ton cœur, si tu réponds, oui Seigneur, oui, me voici, je suis là. Je veux entrer dans tes projets. Je veux avec toi redéfinir mes objectifs. Alors je vous propose de vous lever. Et nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur, tu vois notre pas de foi. Nous nous sommes levés devant toi, Seigneur. Seigneur, je reconnais que je suis au pied du mur de ma vie. Seigneur, je te demande de bien vouloir me révéler chacune des pierres de cet édifice qui m'empêche de vivre pleinement. Je te demande de me révéler. Je te demande ta grâce pour toutes mes responsabilités qui font que ces pierres qui sont des obstacles, sont des obstacles à ta connaissance, à la connaissance de qui tu es. Seigneur, je te demande maintenant de bien vouloir briser ce mur au nom de ton, en ton nom puissant, Seigneur. En ton nom puissant, Seigneur, brise les murs, là, maintenant. Seigneur, brise les murs. Brise tous ces murs, Seigneur. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux me lever devant toi. Et Seigneur, c'est un acte de foi. Afin de connaître tes projets pour ma vie. Et pouvoir te servir humblement. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et je proclame que ta volonté soit faite. Et ce matin, Seigneur, tu vois, mon cœur est ouvert et je reçois ton amour, ta grâce. Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes d'un amour incommensurable. Tu m'aimes d'un amour incommensurable et j'accueille cet amour dans mon cœur, Seigneur. Ah, ah. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.